Madame Taillé m'a très gentiment conviée à cette rencontre à propos, en effet, d'une problématique qui m'est chère, à laquelle, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'avais consacré un ouvrage qui était un ouvrage un peu polémique, dans un contexte un peu particulier, qui est, pour le dire, qui était aussi un contexte politique, à peu près du début du mandat du président Sarkozy, durant lequel, vous en souvenez peut-être, il y avait eu un certain nombre, pour parler comme les sociologues de la controverse, d'affaires, et notamment une affaire qui avait beaucoup ému, c'est le cas de le dire, concernant qui était une proposition visant à faire d'enfants les parrains d'enfants exterminés lors de la Shoah. Alors, c'était à partir de cela, mais il y avait eu d'autres événements que j'avais activé un peu tout un ensemble de réflexions auxquelles aussi je joindrais volontiers, si j'ai le temps, je vous en dirai peut-être un mot, qui était le tour pris par l'historiographie de la Première Guerre mondiale. 2008, c'était le 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et on se retrouve dans un, aujourd'hui, contexte commémoratif sur lequel, si vous le voulez bien, je finirai, donc j'actualiserai pour suivre votre commande. Mais avant cela, je voudrais simplement reprendre un certain nombre de thèses, en tout cas de propos, qui avaient été qui figurent dans ce livre, et peut-être en partant d'une citation de Balzac que j'aime beaucoup, qui aimait à observer pour les nargués, vous le savez, c'est ce qui fait de Balzac un grand écrivain, les manies sociales de son temps. Et parmi ces manies sociales, Balzac en visait une tout particulièrement. Je ne porte pas de jugement, parce que c'est toujours difficile quand on... Enfin, c'est, je pense, l'objet de votre, un des objets de votre réflexion, c'est que comment se suspendre son jugement à certains moments de la recherche lorsqu'on investit de tels terrains. Donc je suspends mon jugement, et face à Balzac qui se moquait de la compassion de son temps pour les pauvres et pour les fragiles, il le fait, vous allez le voir, avec une cruauté que je ne prends pas à mon compte, mais que je vous cite comme un élément de rappel à une histoire longue, si vous voulez, des sensibilités. Donc, écrivait Balzac, jamais dans aucun temps on a demandé le triage de son nom sur le volet public à des motifs plus puérils. On se distingue à tout prix par le ridicule, par une affectation d'amour pour la cause polonaise, pour le système pénitentiaire, pour l'avenir des forçats libérés, pour les petits mauvais sujets au-dessus ou au-dessous de 12 ans, pour toutes les misères sociales. Ces diverses manies créent des dignités postiches, ajoute Balzac, des dignités postiches, des présidents, des vice-présidents et des secrétaires de société dont le nombre dépasse à Paris celui des questions sociales qu'on cherche à résoudre. Et il continue sa démolition en disant précisément « On a démoli la grande société pour en faire 1 million de petites à l'image de la défunte. Ces organisations parasites ne relèvent-elles pas la décomposition, n'est-ce pas le fourmillement des vers dans le cadavre? Toutes ces sociétés sont filles de la même mère, la vanité. Ce n'est pas ainsi que procède la charité catholique ou la vraie bienfaisance. Elles étudient les maux sur les plaies en les guérissant et ne pérorent pas en assemblée sur les principes morbifiques pour le plaisir de pérorer. » Bien, on pourrait évidemment s'arrêter longuement sur cette citation, mais derrière cette citation, il y a au fond une attaque, vous le sentez bien, sur, au fond, on pourrait le dire en ces termes-là, le fait que peut-être trop d'émotion, en quelque sorte, tuerait l'émotion. Et c'est cette règle qui sous-tend, je crois, l'irritation un peu moqueuse de Balzac. Autrement dit, trop de compassion épuiserait-elle peut-être les ressources limitées de la générosité sociale? Trop de victimes, et j'en viens à ce qui nous occupe peut-être aujourd'hui, relativiserait-il injustement la souffrance des vaincus qui souhaitent en effet, peut-être conserver à l'indignation toutes les vertus sociales et politiques, ne peut peut-être, me semble-t-il, en abuser. Et la compassion excessive, c'était un peu une de mes réactions face au contexte que je citais en commençant, la compassion excessive peut engendrer en retour les mouvements d'indifférence les plus inquiétants. Et pour demeurer vigilant, il me semble qu'il convient, et c'est tout le travail peut-être des sciences sociales, qu'il convient d'assigner une hiérarchie aux événements comme aux discours qui sont tenus sur eux. Car comment reconnaître les victimes et assurer leur défense, ou encore même exiger les réparations nécessaires, si chacune de ces victimes en appelle à la compassion de tous? Voilà le problème moral qui se pose immédiatement. Alors vous me direz que, en revanche, on sait que la victimisation dispose d'une fonction historiquement utile. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, dans la mesure où des victimisations aussi ont permis de fonder des droits. Alors, les exemples contemporains sont nombreux, mais justement, je voudrais un tout petit peu me dégager de la période la plus contemporaine pour aller dans le 19e siècle français et prendre les débuts de la restauration monarchique. Et c'est un exemple un peu paradoxal, mais la compassion peut aussi être dans l'autre sens. Les victimes ne sont pas toujours celles auxquelles on pense, si j'ose dire. Et la restauration en 1814, avait précisément renversé l'ordre des victimes, renversé l'ordre des valeurs issues de la Révolution, en faisant des oppresseurs d'hier, les émigrés, ceux de l'Ancien Régime, les victimes d'aujourd'hui. Tout le régime de la Restauration s'est en effet nourri, alimenté d'une déploration continuelle pour des victimes, celles de la Révolution, qui faisait écrire au libéral, qui en était issu, lui, de la Révolution, au libéral Charles de Rémusat, la chose suivante. Il y avait, donc il parle de la Restauration et de ce goût pour les victimes de la Révolution, il y avait dans cette lugubre auréole, dans ce nuage d'encens funéraire dont on entourait les princes, je ne sais quoi de solennellement ennuyeux, d'hyperboliquement sentimental, qui me déplaisait. Donc le problème, vous le voyez, est ancien, et c'est maintenant sur une période un peu plus récente que je voudrais attirer votre attention. Car, à l'inverse du constat que Roland Barthes avançait il y a une trentaine d'années dans les fragments d'un discours amoureux, selon Barthes, en effet, nos sociétés, celles de la fin du XXe siècle, auraient condamné l'usage des larmes, eh bien, il semble au contraire qu'aujourd'hui, le flot, ce qu'on pourrait appeler le flot lacrymal, n'ait cessé d'enfler. Alors, je ne suis pas ici pour dire si ces larmes reflètent naturellement la sincérité d'affliction vraie. Ce serait là m'engager dans les voies d'un jugement moral et d'une psychologie sociale hasardeuse qui, je crois, ne ferait que nous égarer. Mais enfin, ce qu'il faut noter, c'est que l'ère de la compassion pour les victimes, qu'on bien pointé pour l'ensemble de nos sociétés, pourrait faire un long florilège, les sociologues, les psychologues, les essayistes, et derrière chacun de ces termes, il y a toute une littérature, eh bien cette ère de la compassion accompagne donc aujourd'hui, comme une quête éperdue d'un statut, celui de victime. Et l'historiographie, puisque c'est un historien qui parle, est précisément l'un des terrains de prédilection où se développe cette tendance de fond, tant elle offre de possibilités à qui trouve la trame d'un récit doloriste. Et chez les historiens, on y est tellement sensible que parfois on est conduit à des abus de jugement, voire à des erreurs d'analyse. L'historienne et la philosophe Mona Ozouf le déplorait encore récemment en soulignant les effets produits par les décalages de sensibilité entre le passé et le présent. Nous savons que notre présent et tout ce qu'il charrie avec lui est devenu envahissant, ce que François Hartog stigmatise sous le nom de présentisme. Et ce présentisme nous fait parfois perdre de vue tout ce qu'il y a d'irréductible dans le passé, notamment tout ce qui se niche dans les sensibilités et les régimes émotionnels propres à chaque époque. Mona Ouzouf a cette formule provocatrice, mais sur laquelle je vous invite à méditer. Elle dit « Juchés sur les certitudes de notre présent, nous ne voyons souvent dans le passé que des victimes et des bourreaux. » Et bien des exemples historiographiques pourraient être pris, je crois, pour illustrer une pareille déploration. Alors je voudrais prendre quelques-uns de ces exemples au seuil de cette rencontre pour adosser évidemment mon propos. Les situations guerrières sont celles qui naturellement illustrent le mieux ce que je suis en train de dire. Nous comprenons mal aujourd'hui la violence de guerre parce que elle s'est heureusement éloignée de notre quotidien. Quel mot, quel schéma narratif convient-il aujourd'hui d'adopter pour décrire la violence en général, bien sûr, mais la violence guerrière en particulier? La mauvaise conscience, celle du voyeur à distance que nous sommes tous, lorsque nous sommes historiens, ou géographes, ou anthropologues, même lorsque cette distance, donc, pour les historiens est celle du temps, cette mauvaise conscience pousse parfois à avoir la main lourde et à charger le propos d'une empathie qui n'est pas toujours soucieuse d'intelligence. Alors pourquoi cette mauvaise conscience face au paroxysme de la violence? Sans doute parce que, implicitement, face à elle, nous nous posons des questions qui renvoient à nous-mêmes. Comment aurais-je agi? Aurais-je eu le courage? Aurais-je aussi été le criminel que je fustige avec tant d'aisance? Aurais-je été du côté des victimes, comme je me plais à le croire? Toutes ces questions se bousculent dans l'inconscient plus ou moins domestiqué du savant. Et toutes appellent, il faut le dire, l'inclinaison respectueuse devant les victimes, dont on ne sait si on eût su partager le destin. Alors telle est la condition douloureuse de l'historien des situations extrêmes, de l'anthropologue, encore une fois, du savant en sciences sociales, qui est appelé pourtant à mettre parfois, comme le dit le sociologue Jean-Michel Chaumont, auteur, comme vous le savez, de cette concurrence des victimes, sur laquelle je vais revenir un instant, cette condition de l'exercice du savant, dit Chaumont, qui le conduit à mettre, je le cite, « son humanité en veilleuse ». Et Chaumont poursuit ainsi, « se réfugier dans une attitude scientifique qui prétend rendre compte de l'absurde et calmer ainsi l'indignation morale n'est, de ce point de vue, qu'une rationalisation supplémentaire de l'endurcissement. » Alors, voilà au fond un schéma que l'on pourrait résumer de la façon suivante, et dans lequel nous sommes enserrés face à ces situations extrêmes dans lesquelles nous voyons, en effet, des victimes et des bourreaux. La première attitude vise à la rationalisation des comportements et à ce que Chaumont appellerait donc l'endurcissement. L'endurcissement, excusez-moi. La rationalisation supplémentaire. La seconde cultive l'indignation. J'observe d'ailleurs que les deux attitudes ne s'opposent peut-être pas, comme on le pense, trop rapidement. Il est même très probable, en tout cas c'est ce que je pense, que chez les meilleurs des savants, l'une et l'autre se combattent sans accord possible, tout en étant nécessaires. Ce conflit, je le dis, me paraît d'ailleurs souhaitable. Les sciences sociales, trop simplement pratiquées, vous le savez, traitent mal des situations paroxystiques. Les sciences sociales, qui s'en tiennent à un camp plutôt qu'à un autre, ont du mal à comprendre l'exceptionnalité auquel elles ont affaire. Jean-Michel Chaumont a très bien montré comment, dans le cadre de ce qu'il appelle donc la concurrence des victimes, un modèle d'explication pouvait être réservé à un type de victime, moins victimisé qu'à un autre, survictimisé. Il prend l'exemple que je voulais citer aujourd'hui de cette étrange réponse que le professeur de philosophie à l'époque à Toronto, Emil Fackenheim, a fait à George Steiner, qui était alors professeur à Cambridge. Voici ce que Fackenheim oppose à Steiner. « S'il est vrai que je ne suis qu'un historien amateur, je suis sûr que quand les Belges ont envahi le Congo et assassiné des Congolais, c'était pour des entreprises rationnelles. » Il met ce mot entre guillemets. « Telles que le pouvoir et la richesse. » En bref, ces mots sont des mots, mais des mots MAUX bien sûr, mais des mots confortables, car nous pouvons les comprendre. Donc, nous sommes du côté, là, de la rationalisation non-empathique. Mais quand Eichmann envoya les trains d'extermination vers Auschwitz, bien qu'ils aient été requis de façon urgente pour des entreprises militaires, alors c'est l'absurdité radicale qui l'emporte. C'est le mal pour le mal, non pour le gain, le pouvoir ou le plaisir. Donc, à ce régime-là, c'est un autre type d'attitude qui doit répondre aux défis posés par l'historien. Et j'en viens à un second exemple qui m'est tout à fait cher, puisque j'y ai consacré un certain nombre de travaux comme historien, et puisque nous sommes dans un contexte commémoratif, il me semble intéressant de le citer pour finir. Je voudrais en effet accorder de l'importance cette fois-ci au statut de la victime, tel qu'il est traité depuis quelques années, à vrai dire une vingtaine d'années, par l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs façons, en effet, d'aborder le cas des soldats dans la Première Guerre mondiale. Il y a une première phase qui a fait suite immédiatement à la Première Guerre mondiale dans tous les pays qui avaient été touchés par ce conflit. Première phase qu'on pourrait à peu près noter dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et les années 30, qui a fait, cela ne vous surprendra pas, du soldat, de l'ancien combattant, d'abord un héros. Un héros qui avait combattu pour une guerre du droit, une juste cause, donc. Cette première phase, évidemment, a une importance considérable dans ces années de l'entre-deux-guerres. Lui a succédé un deuxième régime de représentation, mais aussi d'ailleurs d'émotion, qui a beaucoup marqué la deuxième guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, durant laquelle les anciens combattants sont au mieux passés pour d'épouvantables raseurs qui ne faisaient que ressasser une expérience de guerre qu'on souhaitait oublier après une deuxième guerre mondiale, mais au pire, du plus profond mépris pour des soldats qui n'avaient pas su combattre pour mettre, comme on le disait du temps de la guerre de 14, fin à la guerre elle-même, à la Der Deder, cette Der Deder qui n'était pas arrivée et qui, d'une certaine façon, ces soldats portaient la responsabilité du deuxième conflit. Je passe très vite sur ce contexte-là, sur ces deux premiers contextes, puisque c'est le troisième qui va m'intéresser aujourd'hui. Ce deuxième contexte qui pourrait être symbolisé par cet acte provocateur, d'ailleurs douteux, entre parenthèses, mais qui est souvent cité, de 1968, lorsque des étudiants étaient allés uriner sur la tombe du soldat inconnu, ou deux ans plus tard, lorsque les féministes du MNF étaient venus de façon dérisoire rendre hommage à la femme du soldat inconnu. Tout un ensemble de gestes contestataires qui remettaient en cause, évidemment, la figure du soldat héros. Mais ce qui m'intéresse, c'est la troisième séquence dans laquelle nous sommes encore, et je suis intéressé par le fait de savoir si cette troisième séquence va l'emporter aujourd'hui, qui fait du soldat de la Grande Guerre une victime. Donc nous sommes passés, vous le voyez, du vainqueur héros au statut de la victime. Il faut bien dire qu'il y a de très nombreux exemples qui me permettent de nourrir cette figure. J'en prendrai sans doute la principale, dont je suis d'ailleurs curieux de savoir ce qui va en advenir, c'est la figure évidemment du fusillé pour l'exemple. Et là, nous sommes dans une situation très intéressante du point de vue de la victime, puisque, au fond, le fusillé pour l'exemple bénéficie en quelque sorte de, pour employer un terme propre à la sociologie américaine, le terme de prestige, le fusillé pour l'exemple dispose d'un double prestige. Celui d'avoir été une victime, j'allais dire normale, c'est-à-dire une personne qui a combattu et donc qui est une victime de généraux incapables, du capitalisme, de l'impérialisme, du nationalisme, des États aveugles, etc. Mais en plus, il est victime, il est la victime des victimes, et là, c'est à Jean-Michel Chaumont qu'ils font emprunter le concept de survictimisation, en ce sens qu'il est en plus fusillé par sa propre armée pour avoir failli. Alors, ce surgissement de la survictime qui atteste ce changement de sensibilité qui se marque dans les années 90, s'il fallait prendre une date, je pense qu'on pourrait raisonnablement prendre le roman de Rouault, les Champs d'honneur, mais qui se déploie dans les années 90, et notamment en 1998, donc, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, où le Premier ministre français de l'époque, Lionel Jospin, choisit pour la commémoration un cadre très intéressant, qui est le cadre vraiment de la victime, de la survictime, qui est Crâne, c'est-à-dire le chemin des dames, où ont eu lieu où se sont abattus, plus exactement, cette répression, lieu phare de la constitution des fusillés, pour l'exemple. Voilà ce que disait Jospin. Certains de ces soldats, et c'est une façon, vous voyez, très victimaire de parler en plus de soldats qui avaient gagné la guerre, tout de même, hein, donc vraiment un renversement. Certains de ces soldats, épuisés par des attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, refusèrent d'être sacrifiés. Car tel est le grand mot, évidemment, de la façon dont la Première Guerre mondiale se lie désormais. Il s'agit d'un sacrifice. D'un sacrifice, attention, non pas d'un sacrifice, vous savez qu'il y a deux sens au mot sacrifice, qui est intéressant d'observer. Il y a le sacrifice, en quelque sorte, de soi, auquel on consent. Hein. Il y a évidemment le sacrifice du boucher, en quelque sorte, qui sacrifie, c'est-à-dire qui massacre sa victime. Donc, refuser de sacrifier, dit Jospin, que ces soldats fusillés pour l'exemple, ce qui est d'ailleurs une terminologie tout à fait discutable, hein, qui est une terminologie polémique, qui insistait sur le caractère victimaire de ces soldats qui ont été fusillés, que ces soldats fusillés pour l'exemple au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire nationale. Donc, vous le voyez, c'est un véritable changement de sensibilité qui est à noter. Et nous sommes là dans ce nouveau cadre offert par nos sensibilités contemporaines, qui a fait d'ailleurs, remarquons-le, surgir presque un nouvel acteur dans l'historiographie, à peu près dans beaucoup de séquences de l'histoire, qui est le témoin. Le témoin prend aujourd'hui une place considérable et le témoin est souvent présenté précisément comme celui qui peut témoigner pour les victimes. Si l'on n'est que se tourner du côté de Paul Ricoeur pour voir comment, sans doute un des philosophes qui a le plus réfléchi sur l'écriture de l'histoire dans les dernières années, accorde aux témoins une place de choix dans l'opération historiographique. Mais on pourrait dire d'ailleurs que la thématique du témoin, elle est quasiment générale dans au fond, l'analyse de toute espèce de phénomène social. Et de ce point de vue-là, l'écriture des guerres est tout à fait, des guerres contemporaines, est tout à fait décisif. Alors je conclue en quelques mots. On pourrait dire que, du point de vue duquel je suis parti, il est vrai que les contextes commémoratifs sont en général très périlleux pour les historiens. Je dirais même que ces contextes commémoratifs sont sans doute les pires moments pour faire de l'histoire, tant ils engendrent presque automatiquement des jugements moraux en assignant aux catégories d'acteurs des valeurs positives ou négatives naturellement établies au regard d'une histoire ultérieure. Encore une fois, je ne conteste absolument pas la pertinence politique qu'il y a à faire le départ entre victimes et bourreaux, valeurs négatives ou positives. Bref, ces contextes historiographiques constituent des séquences absolument déplorables pour l'analyse, et on le mesure à chaque fois, mais il faut bien dire impeccables pour le récit dans lequel chacun se projette parfois avec délice, comme d'ailleurs parfois moyen de remplacement d'une impuissance politique en son temps. Alors voilà pourquoi nous aurons sans doute à cœur, ce sera ma petite contribution locale, comment nous aurons sans doute à cœur ici, à Caen, d'observer avec attention le déroulement du 70e anniversaire du débarquement et de savoir et de se demander quelles paroles officielles l'emportera. Et il me semble donc utile, disons-le d'emblée, que nous puissions, peut-être ensemble et avec d'autres, nous retrouver ici même dans quelques temps pour proposer une analyse d'une commémoration qui, je crois, s'annonce du point de vue qui nous occupe aujourd'hui absolument passionnante.